Bernard Lavillier, de retour à l'Olympia à partir de mardi. Notre chanteur bourlingueur abandonne les rythmes latino-américains pour le sud-est asiatique. Bilan, un nouvel album intitulé Solo. Album qui est plus un carnet de voyage intérieur qu'un récit d'aventure d'ailleurs.
Ce 24 novembre 91, au JT du soir d'Antenne 2, Henri Sagnier reçoit Bernard Lavillier. Le chanteur, qualifié ici de bourlingueur, a cette faculté que développent souvent les artistes. Observer le monde, en décrypter des principes et des rouages peu visibles à ceux qui sont occupés à y vivre. Lavillier, en voyageant, a glané des certitudes et des vérités de narrateur. Bonjour et bienvenue dans cette 32e visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et radioalpa.com. Embarquement immédiat dans les pas d'un périple peu commun.
On en écoute un tout petit extrait et on discute tout de suite après.
Comment va l'amour? Il joue les absents. Demande au vautour de gagner du temps. Comment va le monde? Il est rouge sang. Et à mon avis, il est beau longtemps.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas d'un optimisme délirant, hein.
Non, pas vraiment, mais à nos portes, on a une guerre civile, un peu comme l'Espagne en 36. Et puis, apparemment, on n'intervient pas vraiment, à part dire des choses de temps en temps officiellement. Je suis un optimiste, mais qui a de l'expérience. Alors, appelez ça pessimiste, si vous voulez.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir vers l'Asie du Sud-Est?
Il y avait plusieurs raisons. D'abord, je ne pouvais plus retourner chez les Latins. Non pas que je les aime plus, au contraire, j'aime toujours cette musique, mais... J'étais complètement attiré depuis des années par le mystère de l'Asie et leur côté très distancié. Ce n'est pas des gens qui livrent leurs sentiments facilement.
Et vous n'osiez pas partir, pourquoi? Vous n'étiez pas prêt encore?
Je pensais que je n'étais pas assez mature, honnêtement.
Alors vous êtes parti là-bas avec une guitare, une caméra vidéo, un petit carnet de notes, c'est tout ce que vous aviez?
C'est tout, je pars toujours tout seul et comme ça.
Alors au bout de 15 jours, vous avez failli rentrer quand même, pourquoi?
C'est-à-dire que j'étais à Bangkok et j'essayais d'avoir un passeport et un visa pour le Vietnam. Parce que ce que je trouvais le plus intéressant, c'était pas la Thaïlande, c'était le Vietnam, le Cambodge et Birmanie. Quand j'ai pu enfin avoir ce passeport, ce visa, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de rester longtemps.
Six mois. Alors qu'est-ce qui vous a séduit chez les Asiatiques?
Justement, leur distance et leur espèce de sourire indéfini, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. En même temps, quand on devient très copain avec eux, c'est-à-dire qu'il y a une question de confiance. Ils sont à la fois très nombreux, très collectivistes, quelque part, ils vivent vraiment en clan. Et d'un autre côté, ils sont pas du tout envahissants. Les Latins, ils sont adorables, mais bon, ils peuvent rentrer dans votre vie facilement. Alors que les Asiatiques, ils vous laissent toujours le choix d'une espèce de liberté intérieure.
Et un peu de mystère, et ça c'est important.
Ah, très important pour écrire, en tout cas.
Je crois que vous êtes passé à Phnom Penh. Hein.
Exact, oui. À l'époque, on ne pouvait pas y aller en avion, parce qu'on n'avait pas le droit de survoler les lignes Khmer. Enfin, il y avait encore des Khmer rouges dans la jungle. Et on passait par Saigon, Phnom Penh, très rapidement en voiture, enfin très rapidement, 12 heures pour faire 180 km. Phnom Penh, ville complètement déchirée. J'ai été voir Angkor Wat quand même, le temple d'Angkor, parce que c'était pas uniquement pour aller voir les gens dans la misère à Phnom Penh que je suis allé là-bas. Je voulais voir Angkor Wat, c'était un rêve d'enfant.
Non seulement il y a 30 ans, rappelez-vous, les voyages dans certaines régions du monde n'étaient finalement pas si simples, et de surcroît, le Cambodge est toujours un pays à la démocratie sinon fantoche, du moins aussi fragile que son économie. Lavillier y passe alors que la guerre vient à peine de s'achever. Les troupes du Vietnam au Cambodge sont remplacées par un premier ministre, Hun Sen, plutôt inféodé à la Chine. Hun Sen est au pouvoir depuis 30 ans. Lavillier ne recherche pas spécialement les petits coins tranquilles. Retour aux sources de l'aventurier, émission de France 5 d'un monde à l'autre en 2004.
À 20 ans, Bernard Roulion, qui ne s'appelle pas encore Lavillier, est loin, loin de la France et de Saint-Étienne, qu'il l'a vu grandir, parti faire le plein d'émotions et de sensations à l'autre bout de la planète.
Pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait, entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît.
Et c'est le cinéma qui lui a donné envie de mettre les voiles.
Il va voir un film.
Dominique Lacour, son biographe.
Qui s'appelle Orfeo Negro.
Film français de Marcel Camus, Palme d'Or à Cannes en 59 et Oscar du meilleur film en langue étrangère l'année suivante.
Et il est fasciné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Le Brésil, la musique brésilienne, toute cette ambiance. Et il décide de partir au Brésil.
C'est là que l'aventure commence.
Il tombe dans un univers qui le fascine. Il vit de petits boulots, il est docker, il vit la nuit, il fréquente les bars à Marin, il se bat, il boit un peu, etc. etc.
Caruaru, hôtel Centenario, suite princière, vue sur les chiottes et les couleurs, courant alternatif.
Et un soir, dans un bar, il rencontre un type qui cherche un chauffeur pour transporter du bois à travers la forêt amazonienne. Et voilà, Bernard devenu chauffeur de... Il est en train de vivre en direct le salaire de la peur. Il traverse la forêt amazonienne avec les serpents, avec les braqueurs, puisque on pille le contenu des camions, on tue les gens. Donc il se balade avec un pétard, avec un flingue.
Alors c'est quand je suis parti en Amazonie en 83, en octobre 83.
Au micro d'Ardisson dans Scoop à la Une, le 25 mai 86.
Parce que j'avais appris que la mine d'or de Serra Pelada allait fermer. C'était une des mines qui restait à exploitation manuelle, c'est-à-dire le pic, la pioche. Et c'est une mine qui employait 70 000 hommes. Sans une femme, bien entendu. Et cette mine devait fermer parce qu'il y avait des problèmes, il y avait énormément de morts tous les jours, une cinquantaine de morts, soit du scorbut, soit d'un coup de pioche dans la tête, soit des éboulements puisque la mine n'est pas étayée. Voilà. Alors j'avais envie de voir ça avant que ça ferme. En fin de compte, je suis arrivé le jour où le président brésilien lui-même avait donné l'ordre, enfin, avait donné la possibilité, l'ouverture de continuer la mine pendant 5 ans. Et à ce moment-là, dans la ville de Marabá, qui est la ville des chercheurs d'or, il y avait une fête de folie, incroyable fête. Voilà ce que j'ai vu la première fois que je suis arrivé dans Marabá. Après, je suis rentré dans la mine, mais comme je n'avais pas le permis, étant pas journaliste, en plus, ils ne donnaient plus aucun permis pour les journalistes, je suis rentré, comme on dit en portugais, en furan. Furan, ça veut dire en escroc. Donc, j'ai passé la barrière des fédéraux, puisque c'était gardé par les fédéraux. Et ensuite, on est arrivé vers 6h30, 7h du matin, c'est-à-dire au début du travail de la mine, sous la pluie tropicale, sous la pluie équatoriale plutôt, en plein sous la pluie, il pleuvait très fort. Et là, on a eu affaire à la milice particulière, privée de la mine. C'est pas vraiment un cadeau. Voilà, alors l'histoire, c'est qu'effectivement, j'avais emmené avec moi un photographe brésilien, qui s'appelle Carlos, et malheureusement, je pensais pas qu'il aurait une crise de paranoïa. Mais une vraie, il a plus pu ni parler, ni appuyer sur son déclencheur. Il a fallu des heures et des heures en planque au-dessus d'une luncheonnette, dans les sacs de mille et dans les sacs de manioc pour qu'il se calme et qu'il puisse faire les photos.
Et pourquoi ce besoin de partir toujours ?
Puis, au micro de Paul Amar, d'Un monde à l'autre en 2004.
C'est ce que je raconte, c'est les voyages qui m'ont fait. Quand je dis c'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont bâti, qui ont construit l'homme que je suis. Et un bout de Brésil, un bout d'Afrique, un bout de Caraïbes, d'Amérique centrale. Je veux dire pourquoi en réalité ça m'a bâti. Parce que par exemple ici en France, les gens accordent beaucoup d'importance à certaines choses et aucune à d'autres. Si vous faites 10 000 km, il y a d'autres gens qui accordent beaucoup d'importance à d'autres choses et absolument pas aux nôtres. Par exemple en Afrique, ils vous disent « toi t'as une montre mais moi j'ai le temps ».
William Emergy pilotait le 13h d'Antenne 2 ce 20 novembre 86.
Vous aimez bien qu'on vous considère comme un nomade, non ?
J'en suis un, c'est pas être considéré comme. C'est-à-dire je vis tout à fait autrement. Je vis en France quelques mois par an, enfin je travaille ici des fois, puis beaucoup d'autres fois je travaille ailleurs. Je fais pas que me balader quoi, touriste ça me plaît pas trop. Non, je travaille, j'écris, je veux dire, j'écris, je travaille avec des musiciens sur place et c'est beaucoup plus intéressant pour moi, excitant d'écrire sur place.
Ça dépend de l'attitude, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. N'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Quand j'écris Noir et Blanc, j'étais au Congo, au Zaïre. Quand j'écris Seigneur de guerre, j'étais à Dakar, avec 50 tam-tams. J'ai appris la tradition des tam-tams, le langage, et après je peux me permettre d'écrire.
Il est d'une race fauve, il est tranquille et brutal. Silencieux quand il se pose entre Dieu et l'animal. Sous la peau brillante dans l'ombre, de longs muscles de métal. Homme seul, homme sombre, où est le bien et le mal? Noir comme le diable, chaud comme l'enfer, insaisissable. Seigneur de guerre, rythme fort, je
et blanc dans Alcaline en 2013, seigneur de guerre au Zénith en mars 89.
Peut-être qu'il y a des touristes intelligents, vous voyez pas?
Oui, oui, non, ça, le tourisme, pour moi, c'est un côté Bermuda à fleurs, un peu.
Ah,
un...
mais non, vous voyez, vous avez une idée fausse du tourisme. Il y a des touristes, ça veut dire des gens qui ne restent pas, pour moi, non?
Oui, enfin, des gens qui sont de passage.
Oui, c'est
on
ça.
Est tous de passage, de toute façon.
Mais pour vous imprégner, il vous faut quoi? 3 mois, 2 mois, 3 mois?
Ouais, 2-3 mois, il me faut. Le temps que je comprenne, le temps que je rencontre les gens qu'il faut, parce que c'est pas toujours facile.
Qu'est-ce que vous appelez les gens qu'il faut?
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, officiellement, il faudrait rencontrer, et c'est ceux-là qu'il faut. Et puis, en fin de compte, c'est rarement ceux-là. Il faut les trouver tout seul. Comme en Jamaïque, quand j'ai fini enfin par connaître Marley, j'ai mis du
Bob
temps,
Marley.
C'était difficile de le rencontrer. Et je suis arrivé par un chauffeur de taxi et par un boxeur
la cousine
qui était bodyguard et qui se trouvait que je m'entraînais dans la même salle, l'unique salle de Kingston à l'époque. C'était un grand noir comme ça qui connaissait Bob. C'est lui qui m'a emmené.
J'ai fait une chanson sur la mort du Che Guevara que je n'ai pas connue. Je connais Fidel Castro, mais pas lui.
D'un monde à l'autre, 2004.
Et si vous voulez, j'écris ça parce qu'il me manque beaucoup, moi, le Che. Par rapport à la situation qu'on vit dans le monde entier politiquement, je trouve qu'il n'y a personne qui ait cette espèce de grandeur, le sens du sacrifice à ce point-là, qui va jusqu'au bout de ses idées. On vit quand même dans un monde ou de fous furieux qui tuent tout le monde pour des raisons moyenâgeuses, ou de gens très consensuels qui finalement disent « bon, oui, on va s'arranger, c'est pas si grave, si je gagne bien ma croûte ». Et le Che Guevara est mort, hein. Il est mort d'avoir trop cru dans ses semblables, je crois, comme le Christ. Quand on voyage, en tout cas, on se sent bien quelque part, qu'on a finalement ingéré la culture, les habitudes, qu'on tombe sur des gens vraiment sympas, ou des artistes, ou même un garagiste, parce que moi, je ne fréquente pas que des artistes. Hein. On se dit, tiens, finalement, je suis bien ici. Et moi, tout à coup, je me dis, attends, tu vas quand même pas rester là. Parce qu'au bout d'un moment, je vais m'emmerder, c'est évident.
Ce serait donc une fuite?
Ah non, non, c'est pas une fuite. Hein. Je ne considère pas tout ça comme ça. Parce qu'en réalité, vous savez une chose, que vous n'avez pas réglé un problème à Paris, vous les emmenez à Rio, vous les emmenez avec vous dans vos valises. Donc moi j'aime bien partir quand tout est clair, que l'esprit tranquille, au contraire.
Allez, direction Buenos Aires, du moins à la grande banlieue, ici avec Patrick Simonin sur TV5 Monde le 26 novembre 2021.
À l'avocat.
Ouais.
C'est-à-dire c'est assez loin du centre. Ah oui, c'est sur le fleuve. Donc c'est un port fluvial enfin, sur le Rio de la Plata qui a dû faire rêver beaucoup. Mais la ville n'est pas tournée vers le port du tout. Elle tourne le dos. La ville s'est développée sur le campo, vers l'intérieur. Alors, c'est pas une ville de marins, on voit pas un marin, rien, où les marins restent à leur bord. De toute façon, maintenant, avec les containers, les marins, ils descendent plus. Hein. Donc, il n'y a plus les marins dans les ports, dans les bars, avec les... tout ça, quoi, les chansons de marins.
Ouais.
C'est une ville qui a beaucoup souffert.
C'est à vous, France 5, le 17 novembre 2021.
Sous les généraux et sous les colonels Videla, je veux dire, c'est pas si vieux, hein. Ils ont beaucoup. C'est une ville qui a souffert, franchement. Quand j'allais, je suis resté 3 mois, mais tous les jeudis, j'allais sur la place de Mai avec les mères, les femmes, les sœurs, de tous les mecs qui ont été balancés dans le Rio de la Plata, hein, ou plus loin dans l'océan Atlantique. 30 000 disparus, hein. Peut-être pas 30 000 disparus, mais beaucoup. Donc, effectivement, on les a jamais retrouvés. Et personne ne dit rien là-dessus. Puisque quand même, normalement, même si on fusille quelqu'un, on enterre son corps, logiquement. Mm. Donc c'est très spécial.
TV5 Monde.
On voyait des mecs qui disaient, ouais, il faudrait un militaire, une dictature.
Il faudrait une bonne dictature.
Ouais. On ne rend pas compte, je crois, ce que c'est que la dictature. Oui, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais moi j'ai souvent été dans des endroits où il y a des dictateurs, hein, dans ma vie. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte du tout.
Ouais.
Alors, ou alors ils aimeraient être eux les dictateurs, plutôt.
Ouais.
Et nous, ceux à qui on file des coups de bâton. Il y a des fois, le sens des mots est vidé. On n'emploie pas des mots comme ça. Hein.
Et c'est vrai, en dictature, la caisse-prison, voire pire, est si vite arrivée.
C'est tellement la solitude, la prison. Hein, quand on part d'un milieu extérieur et qu'on rentre là-dedans, c'est terrible. Si un jour vous avez l'occasion de visiter une prison juste comme ça, quand les portes se referment derrière vous, déjà ça vous fait froid dans le dos. Sauf que quand vous êtes complètement coupé de la réalité, vous ne pouvez avoir plus aucune influence sur votre propre vie. Vous êtes un numéro, vous n'êtes plus personne. Et c'est sûr que la tentation de se foutre en l'air est souvent fréquente.
Patrick Cohen, c'est à vous.
Ça, c'est une vraie lettre.
Oui. Betty était en prison, elle a pris très très cher. Et ce n'était pas du tout elle. Enfin, ça arrive. Et donc, elle voulait se suicider. Donc, j'ai pris mon cahier, ma guitare, comme ça. Et j'ai écrit. J'ai déroulé la cassette, vous savez, à l'époque. Je l'ai enroulé dans un tube d'aspirine, je l'ai filé à une amie qui allait en visite, parce que je n'avais pas le droit d'y aller, parce que j'étais pas son frère, ni rien. C'est une amie, simplement, elle l'a déroulé, elle l'a réenroulé, elle ne s'est pas suicidée. Voilà. Important. C'est vrai.
te dis je t'aime, en ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté. Pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité. Pendant que les gens dorment au fond du conforme, sans se réveiller. Petit, faut pas craquer. Petit, faut pas plonger. Ils t'ont couché là, et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. On se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Là, c'était le 3 novembre 84 dans Champs-Élysées.
J'ai chanté la première fois cette chanson en 81. Il y avait Ève Rougéry qui avait une émission de télévision. Il y avait Dalida qui était là. Elle a fondu en larmes. C'était étonnant.
J'ai des chansons très solaires quand même. Je parle beaucoup de soleil. D'ailleurs, c'est un linguiste qui m'a dit ça, Louis-Jean Calvé. Il me dit, tu cites énormément le soleil. Sur tous les milliers de mots que tu emploies, c'est le plus fréquent.
Le soleil irradie, illumine, il chauffe, voire il brûle aussi, d'un monde à l'autre, encore en 2004, puis TV5 Monde en 2021.
Je m'embastille assez facilement, dans le genre j'accuse, quoi. Je m'embastille, c'est-à-dire je me mets en pétard. Contre le monde entier, contre ce connard de bouche, je me mets en pétard. Et je suis vraiment en colère. Et s'il y a un mec au bar, il n'est pas d'accord avec moi, je m'engueule avec lui. Mais c'est pas non plus pour le convaincre, c'est juste une histoire de sport, moi. Une espèce de révolte qui boue en moi en permanence. Donc
moi, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais dialoguer. Je ne vais pas me mettre en colère, forcément. Mais au minimum de dialogue et du respect. Je suis ami avec des gens avec lesquels, politiquement, je ne suis pas d'accord du tout.
Ouais.
Mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des amis, vous comprenez? Moi, je suis peut-être un vrai démocrate, je ne sais pas. Dans l'idée même m'intéresse le fait de justement confronter des façons de vivre, des idées ou même des utopies, why not? S'il n'y a plus de rêves, il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que la plupart des grands hommes ou des grandes femmes, elles ont rêvé des fois avant d'agir. Et il faut.
ACJ, allez, séquence politique au micro d'Henri Sagnier, antenne 2, 91.
Vous avez dit un jour, la gauche caviar me dégoûte, là on vient en France, le mythe du libéralisme me gonfle, ce sont vos propos. Hein. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous êtes toujours d'extrême gauche et fier de l'être?
Oui, je pense qu'il faut toujours l'être, il faut être vigilant, il faut être radical, parce que comme à l'extrême droite, ils sont très radicaux, en ce moment ils font beaucoup parler d'eux, il faudrait peut-être que les gens qui ont été de gauche, extrêmement de gauche comme moi, le restent et puis donnent leur avis.
TV5 Monde en 2021.
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a eu quand même pas mal de problèmes ces temps-ci, hein, depuis un bon moment. Le cœur du monde, j'ai l'impression qu'il bat bizarrement et que je dirais même que la démocratie peut être en danger, quelque part, plus en plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens, comme en fait à qui ils sont dans la démocratie, mais plus ça va, et moins ils s'en occupent. Donc au bout d'un moment, on va arriver en théocratie, en autocratie, et puis plus loin.
Ouais.
Il y a pas mal de gens qui sont presque des... Bon, Trump, tout ça, c'est des autocrates déjà au départ.
Dans D'un monde à l'autre, des étudiants posent des questions à l'invité.
Wendy,
Wendy, c'est la journaliste Wendy Bouchard.
Alors en mai 68, vous avez 22 ans, vous écrivez déjà et puis vous allez chanter dans les usines occupées. Oui. Je voulais savoir si cet événement avait été un déclic pour vous qui ne saviez pas à l'époque si vous seriez gangster, boxeur ou poète.
C'est-à-dire que je faisais un peu les trois. Quand j'avais les poulets au cul, je me transformais en chanteur. Et quand j'avais marre de chanter, j'allais boxer. Mais c'est absolument vrai. En 68, j'allais chanter dans les usines parce qu'effectivement, les étudiants comme vous avaient commencé la grève. Hein. C'est pas les ouvriers qui ont commencé. Ensuite, la CGT et le Parti communiste ont décidé de fermer les usines. Et c'était la grève générale. Et je suis allé chanter dans les usines occupées. Pour leur expliquer en même temps, toujours passeur, ce qui se passait à Paris et ce que nous, on voulait. En général, je me faisais traiter de non-aligné et d'agitateur. Je me suis fait virer au bout d'un moment des usines par les communistes qui trouvaient que j'étais un provocateur et que je comprenais rien au monde ouvrier. Il me faisait drôlement rigoler parce que je suis né dedans.
Un peu gaucho, quoi.
C'est ça. Voilà, gauchiste. Pour eux, ils étaient communistes, attention.
Ah ouais, non, je sais.
L'extrême gauche, c'était très très mal vu à l'époque. Ouais. Et c'est toujours d'ailleurs par les communistes et surtout par les socialistes. Bon, enfin, c'est un autre débat, moi, je pense.
Lavilliers n'a jamais oublié d'où il venait. Saint-Étienne, on l'a vu la dernière fois. Mais aussi le monde du travail manuel, l'usine, la sidérurgie, la mine. Une chanson sur un lieu illustre bien ça, French Valley. Extrait de la télé locale Lorraine en 2013, puis la version de 76, l'un des piliers de son répertoire.
Je suis venu souvent chanter ici, et on a même fait des émissions de radio qui ont bien marché. On a parlé de la région, je me souviens, là, et on en a parlé d'une façon positive. Moi, quand j'ai commencé à chanter en 73, dans la région, à Metz et ici, hein, dans toute la vallée des Anges, moi je chantais
Bernard.
Tous les 10 km. Hein?
Un
Jeuf. Oui, un Jeuf, mais avant j'étais au Trinitaire. Après j'ai fait Agondan, Jaillange, tout. Tous les 10 km, je chantais. C'est une façon comme une autre de considérer mon métier. Je suis un chanteur départemental. Mais c'est vrai que la vallée de la Fenge, pourquoi j'ai pu écrire ça? J'aurais pas pu l'écrire peut-être sur la vallée de la Loire, parce qu'il y avait des noms de villes qui se terminaient par Ange, alors que le décor convenait pas vraiment, c'était pas angélique. Hein. Et je me suis dit, c'est frappant, comment se fait-il? Alors, je suis pas allé dans l'étymologie, j'ai simplement pris l'image. Et en me disant, ils sont en train de perdre leur boulot. Donc, c'est une chanson que dans le monde entier, je chante. Les gens, ils appellent French Valley. Et à chaque fois, je leur corrige en disant, c'est un petit cours d'eau, enfin une rivière qui baigne une vallée de sidérurgie. À ce moment-là, ils comprennent. Mais je leur dis, c'est dans Lorraine, vous voyez. Mais je ne pense pas, si je suis venu là, c'est pas non plus pour pleurer et pour dire aux gens, suicidez-vous, quittez la Lorraine, partez en Roumanie, vous allez avoir gagné 50 euros par mois. Non, certainement pas ça que je dis.
Bien petite bourgeoise, demoiselle, visitez la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit.
Musique tropicale sur les causes perdues, et là je pense que ça prend tout son sens ce soir. Avec toi, merci.
Je suis plutôt solidaire des lumpen, moi, c'est-à-dire de la classe d'après, celle qui est encore plus bas, viscéralement.
En 84, au JT de France 3 Rhône-Alpes.
Quand on est un mec qui crée, en 2 ou 3 ans on peut se retrouver dans une mer de noir. Tout dépend ce qui se passe dans la tête, tout dépend ce qui se passe dans ce fameux créneau qui existe ou qui n'existe pas. Si on ne le cherche pas forcément, on peut avoir des périodes de misère intégrale après avoir connu des périodes de gloire. J'en suis parfaitement conscient. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'écrire. Ma foi, gagner du blé, quand on écrit que ça se vend, on gagne du blé. Quand on écrit que ça se vend pas, j'ai connu cette époque, on n'en gagne pas.
J'ai souvent fait ça dans ma vie. Hein. Et j'ai terriblement un manque de peur qui fait que je peux faire un peu n'importe quoi. Ça m'arrive.
Alcaline, le 18 novembre 2013.
Mais vivre encore, c'est continuer à créer, continuer à aimer, continuer à rebâtir, partir de zéro, avoir la force, quoi.
Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur.
C'est ainsi que vont se refermer les deux visites aux baroudeurs de la chanson française sur Radio Alpa. Vous pouvez retrouver les podcasts sur radioalpa.com et l'ensemble des visites sur le Miss Club de l'émission Le Panthéon Décousu. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans un peu de salsa, on en a si peu entendu. Ok, ça peut être de la bossa, du reggae avec Jimmy Cliff ou de la saudade avec Cesaria Evora. Et puis non. C'est Ray avec Ray Barreto. La présentation est faite chez l'Emergie sur Antenne 2 en 86. Bonne semaine à toutes et tous. Et d'ici là, malgré la citation de René Char, à la toute fin, vous pouvez vous protéger et profiter du soleil.
Je vais vous le dire, c'était en novembre, donc il y a pile un an.
Ouais.
Tiala Sand, c'est dans Broadway. Les deux frères Masucci, Alex Masucci, Jerry Masucci, c'était les patrons de la musique portoricaine à New York. Donc vous avez vu Ray Barreto.
C'est le premier qu'on a vu. Hein,
oui, ouais. Celui qui joue des congas, très, très ouais. Célèbre, qui a joué beaucoup avec des jazzmen et qui dirigeait l'orchestre en même temps et qui avait fait l'arrangement.
Au sud du Bronx, il vivait là, un coin peinard avec un autre sol, rempli de tambours, de congas, de timbales, de guitares espagnoles. La mégapole glissait ses doigts, des bas quartiers jusque vers la coupole. On expulsait un tour de bras et le silence était un monopole.
De incendio y mineral, entre graffiti el cielo esconde, yonki que sueñan tropical, la Big City con su ley sin nombre, se fueron lejos o a prisión, las almas llenas de esos hombres, y el paraíso es la ilusión, c'est Giuliani pour les Mozart de l'ombre,
Broadway,
Broadway,
tu cherchais ton soleil sous tes arcs électriques. Le grand portoricain habitait la musique.
Merci Bernard Lavilliers d'être passé par chez nous. Le mot de la fin vous appartient.
La lucidité est la blessure la plus proche du soleil.